Bon, je vais vous parler un petit peu de Mind and Life, son origine, peut-être plus sur le lens, au travers un peu mon impression de l'inspiration de Francisco. Donc un peu d'histoire, mais aussi un petit peu de réflexion sur les questions, puisque ça suit en fait assez bien ce qu'a fait surtout Alan, de qui était cette personne qui a pu avoir une rencontre avec le Dalai Lama et inspirer la genèse d'un réseau tel que Mind and Life. Moi, j'avais préparé quelque chose avant de venir, mais après, en écoutant, je ne sais pas s'il est là, Urban, hier, qui parlait de dialogue, aussi aujourd'hui de cette question de la première personne et du dialogue, et est-ce qu'il faut ou non un dialogue pour faire ressortir ce qui peut être communiqué de la première personne et aussi cette notion d'intersubjectivité. Je pense que le projet de Mind and Life tourne vraiment autour de cette notion de, on pourrait dire, de seconde personne, mais j'ai jamais aimé ce terme puisque psychanalyste, je pense qu'il n'y a déjà pas de première personne, ni peut-être de deuxième, et certainement pas de troisième, mais. ces termes-là ont été nés. Avec Francisco par rapport à ce domaine, mais aussi par rapport au baseball américain, où vous savez à first base, second base et third base. Donc, ça, c'est pour John Potavi, une petite métaphore sportive. Bon, mais donc je prends, puisque j'ai pas besoin de presser trop, même si je vais pas parler longtemps, je reprends ma préparation. Donc je voulais introduire Mind and Life, l'histoire de Mind and Life avec une question que le philosophe et psychanalyste Jonathan Lear, qui est peut-être pas très connu en France, mais devait l'être, pose au début de son livre sur l'action thérapeutique en psychanalyse. Sa question, c'est: une conversation peut-elle changer fondamentalement la structure de l'esprit? Et si la réponse est oui, de quelle sorte de conversation s'agit-il? En cherchant une traduction en français pour What does it take to change a mind? J'ai trouvé changer d'avis. Ce qui correspond à la manière courante de comprendre cette expression to change your mind, c'est changer d'avis en anglais. Mais changer d'avis n'a pas le même sens que changer d'esprit dans cette question, c'est évident, hein? Nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances, apprendre de nouveaux faits, faire des expériences, mais cela, sauf en de très rares occasions, et sûrement Valérie va être contre ça. Je vois les yeux. Bon, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances et apprendre de nouveaux faits, mais cela, sauf en de très rares occasions, ne change pas radicalement notre vie. Nous pouvons changer de croyance, même de système de croyance, mais cela, sauf en de très rares occasions, ne change pas radicalement notre esprit. C'est évidemment toujours possible et même facile d'acquérir de nouvelles connaissances qui complètent ou réactualisent ce que nous savons déjà. Et il nous arrive parfois de modifier ou même de changer radicalement nos croyances. Mais ces opérations n'interviennent qu'au niveau des contenus de l'esprit. Comment penser une conversation qui affecte l'esprit ou la psyché plus profondément, plus entièrement? Et ça, j'entends là en disant ça, un écho de ce que Francisco disait ailleurs par rapport à la conscience, que c'est un tout composé de beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas être séparés. une conversation qui prête attention à pas seulement sur ce que nous pensons, mais comment nous le pensons, comment nous le faisons. Pouvons-nous imaginer une conversation, un échange, un dialogue qui fait appel à notre tout entier, qui opère à revaloriser, là, revaloriser, donc remettre les valeurs au premier plan de nos relations, et une conversation qui rappelle notre incarnation, notre embodiment, plutôt que de nous rappeler des abstractions. Donc j'aimerais bien qu'on garde ces questions-là, peut-être si vous voulez, hein, en tête. Sur la conversation et les questions sur la conversation pendant cette bref réflexion sur Mind and Life. Donc Mind and Life Institute, est une conversation vieille de 35 ans qui est née d'une rencontre, comme vous savez peut-être, et comme beaucoup de véritables aventures scientifiques et émotionnelles. L'amitié entre Francisco et le Dalai Lama a commencé en 83 lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au Forum européen d'Alpbach en Autriche. Le Dalai Lama était présent avec un groupe de scientifiques et de chefs spirituels, parmi lesquels Francisco, entre autres le physicien David Bohm, le frère David Steindl-Rast, qu'on a vu hier dans les photos de Lindisfarne. C'était une petite cercle de discussion à Alpbach avec seulement 6 ou 7 personnes et un tout petit public, parce qu'à cette époque-là, le Dalai Lama n'avait pas encore eu le prix Nobel et donc il pouvait aller un peu là où il voulait sans être embêté. Hein? Et il aimait beaucoup ce genre de lieu de rencontre. Très intime entre scientifiques et personnes des traditions spirituelles. Il était fasciné, le Dalai Lama, par la science et la technologie depuis sa petite enfance. Vous savez certainement beaucoup d'entre vous ça. Et il assistait à des conférences et à des réunions scientifiques à chaque occasion qu'il pouvait. Et à l'occasion de cette réunion-là, à Alpbach, les orateurs déjeunaient ensemble et Francisco était placé à côté du Dalai Lama à table. Leur discussion, d'après les deux, d'après Francisco et d'après le Dalai Lama, a pris son envol avec vivacité, chaleur et beaucoup de liberté. Et le Dalai Lama m'a dit, je me suis entendue avec lui très naturellement. Environ un an plus tard, lorsque le Dalai Lama est venu à Paris pour faire un discours à l'Assemblée nationale, ils se sont retrouvés donc dans le laboratoire de Francisco pour continuer leur conversation sur l'esprit, le cerveau, la conscience, la pratique de la méditation. Et leur conversation avait été si captivante que pour tous les deux, que les assistants du Dalai Lama ont dû protester et le tirer par le côté de sa robe, pour qu'il ne soit pas en retard pour parler à l'Assemblée nationale. Mais avant de se séparer, le Dalai Lama a dit à Francisco, nous devons faire quelque chose ensemble. Viens à Dharamsala pour m'enseigner la science, est-ce que tu veux bien? Et bien sûr, Francisco était ravi, très étonné au début, mais après très ravi. Mais en réfléchissant, en se donnant un peu le temps de réfléchir à cette promesse, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ça toute seule, que tout seul, ce n'était pas quelque chose une tâche qu'il pouvait accomplir tout seul. Donc, il pensait avoir besoin de renfort scientifique avec d'autres types de connaissances que lui, il avait. Et à peu près au même moment, quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, Joan Halifax, Roshi Joan, qui est une Roshi Zen aux États-Unis, qui était une amie, on l'a vu d'ailleurs sur le film hier, c'est la femme avec qui Francisco dialogue dans la nature, l'a mis en contact avec quelqu'un qui souhaitait organiser une réunion scientifique avec le Dalai Lama, qui était Adam Engle. Donc Adam Engle était un homme d'affaires et praticien de la méditation. Et ils se sont rencontrés après, ensemble, Adam et Francisco ont élaboré le plan pour une réunion qu'ils ont ensuite proposé au Dalai Lama, qui a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, ainsi, au lieu d'aller seul pour enseigner la science au Dalai Lama, et comme Alain a dit tout à l'heure, c'est un prétexte. Francisco a convoqué un groupe de scientifiques, presque tous des scientifiques, il a choisi des scientifiques qui savaient, avaient une relation avec la méditation, la pratique de la méditation. Et donc en 87, ils ont gravé les collines de Himachal Pradesh dans le nord de l'Inde jusqu'à Dharamsala pour une semaine d'échange avec le Dalai Lama. Ainsi, donc, il naît Mind and Life après quelques années de préparation parce que, quand même, ils ont passé plus de 2 ans à préparer cette réunion qui était assez petite et assez intime. Je pense que le succès de cette réunion, cette première réunion de Mind and Life, découlait dans une large mesure de la chaleur immédiate qui avait surgi entre Francisco et le Dalai Lama lors de leur rencontre précédente et du lien qui était instauré entre eux dès leur premier moment ensemble. Le Dalai Lama s'intéressait à la science, bien sûr, et la science de Francisco, mais à mon avis, il y avait quelque chose de plus. Le Dalai Lama a dit plus d'une fois qu'il était extraordinaire de rencontrer une personne comme Francisco, qui était à la fois un scientifique accompli et un profond pratiquant de la méditation. Et il adore raconter, d'ailleurs il a raconté hier encore une fois, à quel point il était ravi de voir Francisco revêtir les différents chapeaux. Tantôt, il portait le chapeau de la scientifique classique qui représente la parole mainstream scientifique. Parfois, il y avait en fait trois, hein. Le Dalai Lama a dit deux. Il disait, maintenant j'ai mon chapeau du scientifique renégat, c'est-à-dire celui qui est marginal, que le mainstream n'accepte pas, et puis le chapeau du méditant et du Buddhist scholar. Mais il y avait vraiment clairement entre eux quelque chose qui dépassait l'admiration mutuelle, et je pense que, comme Annie le dirait, à l'amour. Je pense à une rencontre complète de tout cœur et de tout esprit. Donc, comme vous savez tous, Francisco a développé une approche de la cognition qu'il appelait Enaction, dont on a déjà parlé cette semaine et en reparler. Et cette approche repose sur l'idée que le monde, oups, je vais manger ce truc, l'idée que le monde tel que nous le percevons est le résultat des rencontres de notre corps avec notre environnement, qui évidemment comprend les autres. Ces rencontres donnent naissance à nos mondes et aux personnes qui les composent en tant que site ou lieu de sens et de valeur pour nous. Vous voyez donc que la nature même de la relation était au centre de sa réflexion en tant que source de toute créativité et source de Mind and Life. Et cette amitié donc est la source, je pense, la plus sublime de créativité. L'amitié singulière entre Francisco et le Dalai Lama donna naissance à un projet et plus de 40 rencontres qui ont suivi la première en 87. Elles étaient toutes orientées sur l'axe du dialogue entre la pensée scientifique occidentale et la pensée bouddhiste, mais chaque rencontre avait sa propre thème. Certaines traitaient des sciences cognitives ou des neurosciences, de la nature de la matière, de la nature de la vie ou de la physique quantique, d'autres de la plasticité cérébrale ou de l'épigénétique, des relations entre émotions et santé, des émotions destructrices, de l'altruisme et la compassion, de l'apprentissage et l'éducation, des applications cliniques de la méditation, de l'écologie, de l'interdépendance, et encore. Au cours de des 35 dernières années, ces dialogues ont construit un champ d'études appelé sciences contemplatives ou études contemplatives, contemplative science, contemplative studies. Et ce nom recouvre une constellation d'activités de recherche comprenant des études cliniques sur les effets des pratiques de méditation, Donc des études, des effets sur l'esprit, des pratiques de méditation, et les effets sur le cerveau et le corps, ainsi que des recherches coopératives entre scientifiques et méditants, dans lesquelles des données expérientielles à la première personne s'associent aux données objectives, à la troisième personne, afin de développer de nouveaux programmes de recherche incorporant méditants et scientifiques de façon coopérative, donc pas de sujet, pas d'objet, des collaborateurs. Celui-ci était un projet très très cher à Francisco car il s'agit de la mise en pratique de ce qu'il appelait la méthode neurophénoménologique. Je pense que peut-être Antoine va en parler de ça, pour l'étude de l'esprit. Donc, au fur et à mesure que Mind and Life se développait, de nouveaux programmes ont été créés. D'abord, l'école d'été, un programme phare pour les jeunes chercheurs. Et par jeunes chercheurs, on comprend les jeunes chercheurs, les postdocs, mais aussi les gens qui sont à un stade de leur carrière de chercheur où ils ont besoin de se rajeunir. À l'initiative du Dalai Lama, nous avons commencé à nous impliquer dans l'enseignement des sciences pour les moines. C'était la demande du Dalai Lama. Le programme Science for Monks a été développé avec l'université Emory aux États-Unis afin de dispenser un enseignement des sciences fondamentales occidentales aux moines bouddhistes et de développer des dialogues dans les grands monastères du sud de l'Inde. Et le modèle du Dalai Lama pour ses enseignements était le grand monastère du Tibet qui était appelé Nalanda, qui a prospéré entre le 5e et le 12e siècle. Les dialogues modernes dans les monastères auxquels assistent parfois des milliers de moines, et c'est extrêmement impressionnant d'y aller, ont un double objectif: enseigner la science occidentale actuelle aux moines et développer les échanges entre les sciences occidentales et l'épistémologie bouddhiste. Ainsi, Mind and Life a germé d'une amitié, et j'insiste dessus, d'un lien entre esprits qui s'est transformé en programme scientifique, entre autres choses. Et de cette amitié entre Francisco et le Dalai Lama, une foule d'autres amitiés, d'autres connexions a émergé et au fil des années, un vaste réseau, et c'est vraiment un très grand réseau maintenant, de nouvelles relations est venu constituer la famille avec ses problèmes et ses joies. Mind and Life. La résilience de l'organisation pendant de nombreuses décennies vient, à mon avis, de la diversité des relations qui composent ce réseau désormais très étendu. En 2008, donc Mind and Life Europe a été fondée en tant que branche européenne de l'organisation qui, après la mort de Francisco, s'était ancrée aux États-Unis. Et après plusieurs années de fonctionnement avec une direction depuis les États-Unis, en 2012, Mind and Life Europe a entamé une transition pour devenir une organisation autonome avec un conseil d'administration et une direction européenne. Donc, j'aimerais bien vous parler un peu plus de Mind and Life Europe, parce que c'est surtout de Mind and Life Europe, un petit peu, mais on peut parler à n'importe quel moment, hein, dont je m'occupe et que j'aime. Mais d'abord, j'aimerais bien regarder ou vous parler un petit peu de la motivation de Francisco. Et donc, vous avez beaucoup vu hier de qui il était. Mais sa motivation, ma perspective, disons, de sa motivation pour développer un tel projet, d'autant plus que c'était quelqu'un qui aimait bien les retraites, qui aimait bien travailler seul, qui aimait bien être dans son labo et qui a en fin de compte dédié beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à fonder cette organisation de Mind and Life. Donc, je reprends un tout petit peu sur là où ce que j'ai évité, j'ai évité, waouh, lapsus, que j'ai commencé, j'ai évoqué, ça c'était le vrai mot, que j'ai évoqué hier matin, c'était cette question de refamiliarisation avec le concret de l'existence, sur laquelle insistait Francisco. L'apprentissage, donc le learning, est un processus, d'après lui, et puis d'après beaucoup de neuroscientifiques et de psychologues, d'habituation. Donc cette habituation est actualisée par la diminution progressive de la réponse à un stimulus, à une exposition répétée. Plus on répète, moins on réagit. Comme le dit Francisco dans le texte que j'ai cité hier, qui s'appelle Making It Concrete, l'habituation conduit à nous familiariser avec le concret qui nous entoure, et cette familiarité acquise l'efface pour nous, le rend invisible ou transparent à notre perception. Nous nous habituons si totalement à notre environnement que nous ne le remarquons plus. Seul l'inconnu, le non familier, le surprenant ressort et capture notre attention. Francisco a exprimé ceci dans un article non publié intitulé, c'est un article que j'ai trouvé récemment, c'est des notes qu'il devait avoir fait dans les années 70, qu'il appelait « The Obvious », donc « l'évident » ou « l'évidence ». Je ne fais que prendre au sérieux le familier. Ce qui est vraiment familier s'échappe. Le non familier se démarque. Nous vivons enveloppés dans un cocon de familiarité. Le langage des rues, des visages, des couleurs, le projecteur de l'attention plane d'un endroit à l'autre, repérant le changement, repérant la différence qui fait la différence. Le reste, le non-différent, reste en arrière, ignoré. Bon, j'ai promis à Urban que je ferais ça en anglais, mais j'ai oublié de... Mais je crois que je l'ai par cœur. I'm only taking the familiar seriously. What is really familiar escapes us. The non-familiar stands out. We live enveloped in a cocoon of familiarities. Language, streets, faces, colors. The spotlight that is attention... spots, c'est comme ça qu'il le dit en anglais, shines its light in one place, then on another place, looking for where there is change, looking for where there is the difference that makes a difference. The rest, the non-different, is in the background, ignored. Does that sort of make sense to you? Constater ce fond, ce background, ce contexte de familiarité du monde dans lequel nous sommes jetés est la contribution principale, d'après Francisco, pour lui, de la phénoménologie et de la pratique du bouddhisme. Celle-ci offre aussi des pratiques pour se refamiliariser avec le monde qui échappe par le processus d'habituation. Ces pratiques redonnent de la texture, de la granularité, de l'épaisseur au moment présent, à ce qui est là, maintenant. Pour Francisco, la phénoménologie et la pratique contemplative étaient les deux sources essentielles de magie, dans le sens de Van Förster, pour redonner vie à la science et pour, comme il disait, réenchanter le concret. Il a également appelé ce réenchantement un réveil au monde. Et il dit dans ce même article, il faut se réveiller du non-familier au familier, dans cet article qui s'appelle l'évidence. Nier qu'il est là est comme nier l'espace qui entoure la maison dans laquelle nous dormons. One must wake up from the non-familiar to the familiar. To deny that it is there is as if you were denying the space that surrounds a house where you are sleeping. Francisco a nourri ce projet de réenchantement pendant la majeure partie de sa vie. Il y œuvrait soit seul, soit avec quelques rares interlocuteurs, car il était difficile et même risqué professionnellement de révéler publiquement ses passions et ses intérêts dans le contexte du monde scientifique. Il avait toujours pressenti les limites de l'épistémologie et la méthodologie scientifique lorsqu'il s'agissait de sujets qui lui tenaient le plus à cœur. Comme il le raconte dans l'interview que vous allez voir mercredi soir, dès son plus jeune âge, des découvertes sur le monde allaient de pair avec ses préoccupations spirituelles et existentielles plus larges. À un moment dans mon adolescence, dit-il, j'avais environ 11 ou 12 ans, c'était comme une ampoule qui s'est allumée en moi, une curiosité, je voulais lire, je voulais savoir. J'avais un appétit vorace pour explorer le monde et pour les questions « Que sommes-nous ? Comment fonctionnons-nous ? Comment pouvons-nous fonctionner dans ce monde et être un corps ?» Là, c'est une question. Ces questions résonnaient toujours pour lui 6 ou 7 ans plus tard lors de sa première rencontre avec Umberto Maturana, son futur mentor. Lorsque Maturana lui a posé des questions sur ses centres d'intérêt, Francisco a répondu « Je voudrais explorer le rôle de la psyché dans l'univers. » Le temps qu'il a passé, juste après ça, à Harvard était un désenchantement. Alors qu'il travaillait sur son doctorat en neurophysiologie, il a été critiqué plus ou moins gentiment et moqué plus ou moins gentiment pour son intérêt pour la philosophie et pour sa conviction que la pensée philosophique avait un rapport avec la science naturelle. Donc c'était le Harvard des années 70. Par contre, c'est durant ces années-là, à la fin des années 60, qu'il découvre le magicien cybernétique Heinz von Förster, que vous avez vu un petit peu hier, qui l'encouragea à oser demeurer dans un espace d'émerveillement, émerveillement du monde, et à cultiver ce genre de questions à laquelle il restera fidèle toute sa vie. Ces influences extérieures au domaine des sciences naturelles ont permis à Francisco de faire le passage aux sciences cognitives, ce contexte pluridisciplinaire beaucoup plus adapté à sa manière de réfléchir et aux questions qui le préoccupaient. Si le prétexte des premières rencontres Mind and Life avec le Dalai Lama était d'honorer sa demande d'en savoir plus sur le plan de la science occidentale, les dialogues ont servi Francisco dans son projet de réenchantement. En effet, la rencontre de ces deux discours, science occidentale et bouddhisme, élargissent le portail qui ouvre sur notre compréhension de l'esprit et de la conscience. Francisco savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un processus d'attelage de deux systèmes de compréhension. Il fallait trouver le moyen de faire émerger les liens latents entre eux, qui pressentait, ainsi que de faire de la place pour l'émergence de liens inattendus. La solution s'est trouvée dans la dynamique subtile mais puissante du dialogue interdisciplinaire lorsqu'il implique une véritable abandon chez les protagonistes de la position d'expert et une véritable ouverture à l'inconnu. Autrement dit, et suivant la pensée de Francisco dans ce texte inédit, l'évidence, il s'agit de cultiver la capacité de percevoir autrement le familier, de le réanimer, tout en accueillant de façon directe l'inconnu ou le non-familier. Si, dans le dialogue, vous pouvez laisser tomber le désir restrictif de maîtrise ou de contrôle et accéder à cette mobilité et cette réceptivité, vous pourrez alors entrer dans le processus que Francisco appelait un peu malicieusement le frottement, un exercice de transformation et d'altération mutuelle des deux ou plus protagonistes. Ce processus est forcément progressif et c'est pour cette raison que l'élargissement du portail vers une plus grande connaissance de l'esprit ne sera pas un processus rapide. Selon Francisco, ça prendrait plusieurs générations, pas plusieurs années, mais plusieurs générations à mûrir. C'est un travail à la fois individuel et collectif. Le collectif se transforme à partir de transformations individuelles et celles-ci sont le résultat d'une pratique personnelle incarnée et située. Dans un langage psychanalytique, nous dirions que ce processus ne consiste pas à additionner deux perspectives distinctes, mais plutôt à créer le type de conversation qui favorise la reconnexion de parties de la psyché qui ont été séparées, par exemple une partie scientifique et rationnelle avec sa charge émotionnelle. Ainsi, cette conversation singulière fait vivre la pensée en permettant aux protagonistes de se reconnecter avec le vivant dans leur pensée propre. Toute personne ici, je pense, qui a connu Francisco et qui aura discuté avec lui, reconnaîtra sa manière d'être dans le dialogue, dans cette description. Autrement dit encore, afin de marcher sur la voie médiane entre la subjectivité et l'objectivité dans sa recherche, le chercheur doit se désidentifier avec la position restreinte de l'observateur scientifique classique et plonger dans le désert, dans les régions moins explorées, plus sauvages de son propre esprit. La refamiliarisation avec soi qui résulte de ce plongeant est la condition sine qua non préalable pour accéder à une version plus souple et plus expansive de soi. C'est la condition d'un véritable frottement interdisciplinaire pour que ce que Francisco appelle un vrai frottement puisse se passer. Ce processus de reconnexion est lié à ce que notre ami Andreas Weber, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous cette semaine, appelle la poiesis de la relation, poiesis of relationship. Elle est créative, la relation, elle fait surgir des mondes. Andreas Weber l'appelle aussi l'animation, enlivenment, et la biologie de l'émerveillement, the biology of wonder. Car c'est une méthode pour restaurer pour nous le sens de notre intégration, notre appartenance, nos relations à l'intérieur du monde. La reconnexion avec un plus que soi, reconnecting with more of yourself, nécessite donc un certain type de conversation, qu'elle soit psychanalytique, philosophique ou contemplative, le projet de réenchantement du monde en lui redonnant sa concrétude par des pratiques processuelles incarnées et situées en est une qui comporte bien évidemment beaucoup de risques. Il existe un certain type de danger personnel inhérent à tous les processus d'autotransformation ainsi que des résistances à de nombreux types de changements. Dans notre travail donc à Mind and Life Europe, nous avons essayé de nourrir le type de conversation qui fait face à ces risques et à ces difficultés du dialogue, de cette conversation très spéciale, interdisciplinaire, et faire face aussi aux résistances qui surgissent inévitablement. Pour nous donc, il s'agit moins dans le dialogue de ce dont nous parlons, du contenu particulier de la conversation, que de prêter attention à la façon dont la conversation se déroule. Le frottement interdisciplinaire doit être fait avec précaution. Prendre soin, c'est par exemple intégrer intimement et constamment dans notre discussion scientifique des pratiques qui abordent les facettes expérientielles, incarnées et émotionnelles dans la conversation. Ces pratiques s'opposent au mode typique de discussion scientifique, qui est celui de l'affirmation. Leur mode de fonctionnement est beaucoup, beaucoup plus oblique, plus allusif et plus processuel. Elles visent à ouvrir un espace, they're trying to open up a space, plutôt qu'à le parsemer d'objets, rather than opening up a space in order to fill it up again with lots of objects. Nous avons trouvé dans le concept d'inaction un outil qui nous aide beaucoup à faire ce travail d'ouverture d'espace. Je termine avec un petit moment avec Evan Thompson, qui nous manque beaucoup. Comme l'a dit Evan Thompson, l'inaction, il a dit lors de la dernière conférence avec Roshi Joan Halifax à Upaya, et l'inaction est réflexive. La science n'est pas une perspective divine, a God's eye view, mais plutôt une pratique épistémique qui révèle le monde par rapport à nos cadres et à nos perspectives. Ce qui distingue l'inaction des autres types de sciences de la cognition, c'est qu'elle rend explicite cette boucle réflexive. En raison de ce gain de conscience que l'inaction permet, beaucoup de nous à Mind and Life Europe l'ont adopté comme une vue, comme j'ai dit hier, comme une approche qui est plus une vision guidante, si on peut le dire comme ça. Cette vision inactive peut être utilisée de manière réflexive sur nous-mêmes, en tant qu'organisation, et sur tous nos dialogues interdisciplinaires, afin de contrer certaines des défis individuels et systémiques qu'on rencontre dans la science contemplative et dans les études interdisciplinaires. Par exemple, nous essayons de créer et de nourrir un contexte où l'expérience compte, comme disait Michel, experience matters, où non seulement nous apportons notre travail de l'extérieur, mais où le contexte lui-même qu'on crée génère un changement en nous et donc dans notre travail, puisque la croissance et la flexibilité, je dirais, individuelle et la réalisation d'une communauté. Donc, pour terminer, revenons à la question d'où je suis partie et j'en réponds très partiellement par ce que je raconte de Mind and Life Europe. Une conversation peut-elle changer fondamentalement l'esprit humain? Mobiliser l'inaction pour ouvrir un espace réflexif au sein de Mind and Life Europe nous permet d'avancer provisoirement une réponse positive. C'est un travail en cours, un work in progress qui, par définition, comme l'analyse d'ailleurs, est interminable, mais qui nous permet en revanche de nous refamiliariser avec le concret de nos relations. Et ce processus de refamiliarisation infuse ces relations avec de l'amitié. Il ne s'agit donc pas de changer d'avis et même pas de changer sa manière de penser, mais d'ouvrir un espace propice à l'accueil de soi-même et de l'autre. Merci beaucoup.